Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette quatrième édition des Causeries de la Santé. Si vous avez suivi les premières, si vous vous rappelez, on a évoqué beaucoup de sujets autour du Covid, on a évoqué les gestes barrières, on a évoqué c'est quoi des virus, hein, pour comprendre un petit peu les bases de la crise que nous traversons. On a évoqué aussi les conséquences du confinement avec Alain Cucchi sur une étude faite à l'université. Aujourd'hui, on va rester sur des thématiques qui gravitent autour de ce sujet qui nous occupe tous les jours, le Covid, c'est nos enfants. Enfance et Covid, c'est le thème sur lequel on a communiqué sur cette édition. Et pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui le docteur Fabrice Samin, un pédopsychiatre. Bonjour et merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
Premier élément, peut-être déjà vous laisser vous présenter ce que vous faites, qui vous êtes.
Voilà, donc je m'appelle Fabrice Samin, je suis médecin, psychiatre, pédopsychiatre. Je suis arrivé à La Réunion il y a un peu plus de 30 ans comme volontaire aide technique. C'était une espèce de service national civil. Et puis, donc j'ai travaillé à l'hôpital public, j'ai travaillé en libéral. Et depuis 10 ans, je travaille dans un CMPP, c'est-à-dire un centre médico-psycho-pédagogique, qui s'appelle le CMPP Henri Wallon, qui a été la première structure de consultation ambulatoire pour enfants, puis pour adolescents à La Réunion, donc à partir de 1976. Moi, je suis arrivé plus tard, en 1996, et j'ai travaillé à temps partiel au départ, et depuis 10 ans, j'y suis à temps plein. Donc le CMPP est une structure qui s'occupe d'enfants, d'adolescents de 4 à 21 ans. Parce que comme c'est un vieil agrément, la majorité à l'époque était à 21 ans. Du coup, nous nous occupons de jeunes majeurs étudiants et qui donc présentent des difficultés, on va dire, à l'école ou
D'accord.
dans leur scolarisation ou dans leurs études. Alors ça peut être des difficultés d'apprentissage, mais ça peut être aussi des problématiques de comportement, de souffrances psychiques qui les rendent qui les mettent en difficulté par rapport au fait d'apprendre à l'école, alors que de l'école maternelle jusqu'à l'université.
D'accord, donc de 4 à 21 ans, un braquet quand même
Tout à fait.
relativement large.
Voilà.
Et c'est bien pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui.
Oui.
Enfance et Covid, en effet, on peut se poser la question, et je pense que beaucoup se posent la question. D'ailleurs, on a pu voir un certain nombre de sujets dans les médias nationaux, sur les conséquences, en fait, de la crise que nous traversons, les conséquences du confinement, les conséquences de l'école à la maison, les conséquences des gestes barrières, du port du masque, voir sa maîtresse avec un masque, les conséquences, même si je monte un peu dans l'âge, des ados qui ne peuvent plus trop bouger, ne plus avoir de contact physique. Voilà. Est-ce que, donc, la grande question aujourd'hui, c'est quelles conséquences de tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut déjà observer? Et puis après, naturellement, on peut se poser la question, quelles conséquences pour demain? Et puis que faire? Donc la première question que moi j'ai envie de vous poser, c'est de là où vous exercez finalement, et on voit que vous voyez en tout cas une large partie, en tout cas dans le braquet d'âge, hein, 4-21 ans, dans ce que vous voyez, dans les difficultés que vous pouvez voir. C'est quoi les phénomènes? Je sais qu'il est tôt, on n'a pas forcément un recul, les études n'ont pas eu le temps d'être menées avec des résultats publiés, mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des phénomènes que vous avez pu observer, ou en tout cas dont vous avez connaissance, en conséquence sur cette période que nous traversons sur nos enfants?
Alors, ce qui est déjà peut-être un peu particulier à La Réunion, c'est que le confinement dur n'a été que sur une seule période. On n'a pas vécu ce qui s'est joué en métropole et ce qui continue à se jouer en métropole. Mais quand même, évidemment, la situation est particulière. Alors, il y a un prisme, il y a un biais, puisque moi, je reçois essentiellement des enfants, des adolescents ou des jeunes majeurs étudiants qui ont déjà des difficultés. S'ils sont venus consulter au CMPP, c'est qu'ils étaient déjà en difficulté. Pas forcément des difficultés sévères, mais ils étaient déjà en difficulté. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que toutes les études internationales et nationales qui sont sorties ces derniers mois, ça a commencé par des études nord-américaines, notamment d'hôpitaux à New York, mais aussi à Paris, l'hôpital Robert Debré, qui est un hôpital pédiatrique, ont montré qu'il y avait des conséquences qui se traduisaient par des augmentations de demandes de soins pour des troubles relativement graves, comme les tentatives de suicide qui ont explosé dans certains hôpitaux parisiens, mais le phénomène a été constaté à New York de la même manière et dans d'autres villes aux États-Unis. Les troubles des conduites alimentaires aussi, les gens qui s'occupent donc d'anorexie, de troubles boulimiques, anorexie, amaigrissement ou boulimie, prise de poids, constatent aussi la même chose avec une augmentation très importante des demandes, des décompensations de situations qui étaient déjà soit le très pathologique, soit qui était plutôt compensé. Par exemple, dans l'anorexie, on parle d'orthorexie. c'est-à-dire des gens qui sont un peu psychorigides ou qui sont rigides sur leur alimentation, mais qui ne sont pas encore rentrés véritablement dans l'anorexie. Un certain nombre de ces personnes, de ces donc en général jeunes adolescents ou jeunes majeurs, ont décompensé un peu ces pathologies-là. Il y a de fortes demandes, des délais d'attente pour les prises en charge, y compris pour les formes les plus graves.
D'accord. Quand vous dites décompenser, ça veut dire,
ça veut dire qu'au fond,
passer dans l'anorexie ?
Oui, ça veut dire qu'on peut avoir un trouble à l'état plus ou moins latent, à moitié présent, ou qui est dans l'orthorexie, c'est une manière d'être rigide sur son alimentation. Par exemple, je ne mange pas, un peu comme les enfants, quand tous les enfants, à un moment ou à un autre, ne veulent pas manger de légumes, ou ne veulent pas manger d'épinards, ou de ceci ou de cela. Et puis finalement, ça finit par passer, et puis ça n'envahit pas toute la sphère alimentaire et toute l'alimentation. Donc là, c'est plutôt des phénomènes qui s'étendent et qui sont rigides autour de l'alimentation, mais chez des patients plus âgés que les petits-enfants qui résistent aux petits pois ou aux épinards, on va dire.
D'accord, oui.
Et donc, ces gens qui ont ce type de difficultés, c'est compensé. Ils n'ont pas de perte de poids, ils n'ont pas de symptômes graves qui les mettraient en danger physiquement ou psychiquement. Mais lors de cette... Et plus ça dure aussi, d'ailleurs. Donc là, c'est essentiellement aussi en métropole que ça a été constaté. Ici, je ne crois pas qu'il y ait eu d'études particulières qui aient été faites épidémiologique là-dessus, mais il n'y a pas de raison que ce soit fondamentalement différent de la métropole ou des États-Unis sur le plan international. C'est-à-dire là où il y a des gens qui ont pu essayer d'observer ce qui se passait. D'accord. Donc il y a ce type de trouble grave. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui, paradoxalement, ça leur avait fait du bien. Ça les avait amenés à constater que certains mécanismes de défense ou certains fonctionnements qu'ils avaient étaient à remettre en question. Ça existait, c'est plutôt une minorité, mais d'ailleurs il y a des études nationales qui avaient montré, là, toute population confondue, que c'est à peu près 18-19% de la population qui avait tiré un bénéfice personnel de la situation. Donc on voit aussi, j'en ai vu, des adolescents qui disaient d'ailleurs qu'ils se sentaient mieux, parce que souvent c'est des adolescents qui sont un peu particuliers, qui ont une personnalité particulière, qui ne sont pas comme tout le monde, voire qui ont des identités de genre plus complexes, on va dire, que d'autres, et qui se retrouvaient comme protégés d'une forme de harcèlement scolaire. Pour certains, ça existait, puisque le harcèlement scolaire, en milieu scolaire, c'est à peu près 10% des enfants ou adolescents. Et donc, pour cela, par exemple, dans un premier temps, le confinement, le fait de rester chez eux, d'avoir les cours à distance, ça les a plutôt protégés du harcèlement qu'ils subissaient habituellement. Ils ont été à l'abri. Alors après, il faut ressortir. Et donc, certains ont développé ensuite des espèces de phobies scolaires ou des phobies à retourner à l'école.
Oui, donc le retour à l'école, pas forcément simple pour tout le monde.
Pas forcément simple pour tout le monde, mais un certain nombre ont trouvé des solutions. Il y a des parents qui se sont rendus compte des difficultés de leurs enfants. Il y a par exemple des phénomènes qui est que beaucoup de parents ont pris conscience que les enseignants n'étaient pas que des méchants qui disaient que leurs enfants étaient en difficulté ou les convoquaient quand il y avait des problèmes, mais que c'était aussi un métier difficile et que ça ne s'improvisait pas. Donc il y a eu aussi ce phénomène qui a été de rétablir une certaine confiance et un certain respect pour la fonction enseignante. Ce qui a joué, alors moi je travaille dans la CMPP, donc avec des enfants qui peuvent être en difficulté scolaire, et donc du coup ce prisme-là je l'ai un peu mieux perçu. Mais par exemple, il y a un autre aspect qui est apparu, c'est celui des maltraitances et des violences conjugales et intrafamiliales. Dans mon expérience à moi, il y a des gens pour qui ça a été mieux, c'est-à-dire que la situation de violence larvée, comme ils n'ont pas voulu aller jusque-là, ils ont réussi à se séparer, à trouver des solutions pour ne pas passer à l'acte dans la violence. D'accord. Inversement, il y a eu aussi des tas de situations de violence qui ont décompensé. Mes collègues de l'aide sociale à l'enfance, donc du conseil départemental, quand on en discute avec eux, ils disent qu'il y a eu une inflation des signalements pour violence et mauvais traitement.
D'accord.
Pareil dans l'éducation nationale, il y a eu un certain nombre d'enfants qui ne sont pas retournés à l'école ou qui ont... alors c'est souvent un peu les mêmes, c'est-à-dire des situations carentielles et qui sont arrivés à rompre avec l'école trop longtemps.
On va dire. Oui, donc effectivement, des conséquences. Alors pour certains, 18%, c'est ça si je me rappelle du chiffre.
Ça c'est la population générale.
La population générale.
Ça n'a pas été forcément calculé pour les enfants. Ça sera sans doute différent quand on pourra analyser un peu mieux ce qui s'est passé par rapport à des populations infanto-juvéniles plutôt que par rapport à des populations d'adultes. Et même dans les populations infanto-juvéniles, je pense, suivant l'âge, je pense que ceux qui sont en train de souffrir beaucoup, y compris de la prolongation de cette situation, ce sont les adolescents, les jeunes majeurs, étudiants qui sont quand même dans des restrictions sociales importantes à un moment où on en a encore plus besoin qu'à d'autres âges. Mais ce que je dis là, c'est vrai pour toutes les populations et c'est peut-être, il y aura certainement, quand on pourra analyser ça plus sérieusement, on pourrait dire, il y aura certainement des différences en fonction des tranches d'âge parce que ce ne sont pas les mêmes mécanismes psychiques de maturation qui sont à l'œuvre à ces différents moments de la vie.
D'accord. Donc, si je reprends assez brièvement, donc certains troubles, on a évoqué les troubles alimentaires, le taux de suicide par lequel vous avez commencé, on l'observe, peut-être vous n'avez pas les éléments à La Réunion.
Je n'ai pas les éléments à La Réunion, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de communication précise là-dessus. Nous-mêmes, de par notre fonctionnement, avec un certain nombre de listes d'attente où on ne répond pas aux urgences, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus, mais il serait très étonnant que ça n'ait pas été le cas, y compris quand je vois. Alors les collègues que moi, les professionnels que je côtoie le plus, c'est plutôt les gens du conseil départemental, les professionnels de la petite enfance ou de l'enfance et de la protection de l'enfance, et puis les enseignants. Eux, ils décrivent tous quand même des situations qui ont pu être très compliquées.
D'accord. Donc des conséquences comme celle-là. Là, on parle tout âge confondu.
Oui, alors avec des modalités de fonctionnement différentes. En maternelle, avec des enfants qui seraient plutôt dans des difficultés de séparation et d'individuation par rapport à leurs parents, à leur mère dans la fonction maternelle. Ceux qui étaient déjà en difficulté. Alors il y a eu deux situations finalement. Il y a ceux qui se sont repliés encore un peu plus dans le lien fusionnel, ce qui n'a pas été terrible pour leur développement du langage, des apprentissages et autres modalités de développement. Et puis il y a ceux pour lesquels parents et enfants, dans cette espèce de huis clos du confinement, ont été comme jusqu'à la limite de ce qui devenait gênant ou problématique dans cette espèce de fusion. Donc il y en a à qui ça a vraiment permis d'évoluer et de grandir, on pourrait dire, pour dire simplement, et d'autres que ça a renforcé dans leur difficulté à grandir. C'est difficile vraiment aujourd'hui de quantifier ça. Moi, j'ai constaté les deux, et puis je dirais que la majorité, ils ont été confrontés à ces problèmes-là, mais ils ne l'étaient pas déjà forcément énormément au départ. Du coup, ces questions-là, elles se sont posées à peu près pour tout le monde. Oui. Je pense que, par exemple, les symptômes un peu dépressifs, plus qu'anxieux, que vivent pas mal d'adolescents ou de préadolescents, c'est un peu tout le monde qui les a vécus. Certains sont plus vulnérables parce qu'ils ont des histoires particulières, des problématiques particulières, et ceux-là ont pu aller très très mal, toutes ces augmentations de tentatives de suicide. Et puis pour d'autres, ça a été l'occasion, je pense, de se poser des questions et sur des problèmes qui se seraient posés plus tard, mais qui se sont révélés plutôt à ce moment-là. Ça a été un révélateur, je pense. Le poids psychique et social et culturel de ce qui se joue dans cette situation a révélé, a aggravé un certain nombre de situations. Paradoxalement, ça a permis d'en améliorer d'autres. Et puis, on va dire que tout le monde a porté un poids assez particulier.
Oui, si je fais un petit peu le lien avec une autre causerie que nous avons eue, je recevais Alain Cucchi, qui avait fait une étude avec les étudiants. Alors, certainement des proportions différentes, mais les conclusions étaient un peu les mêmes, c'est-à-dire que certains en ont tiré bénéfice, et d'autres, pas du tout. D'autres, voilà. Et puis, moi, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, ça ne crée pas forcément des problèmes nouveaux de manière ultra prépondérant, mais c'est un révélateur, en reprenant votre propre terme. Oui. Ça révèle des choses qui étaient un peu latentes.
Oui, on peut même dire, alors là, c'est plus par rapport à une pratique, parce que je travaille aussi en addictologie, avec des gens qui ont des troubles psychotiques, avec de grandes difficultés de socialisation. Ils se sont retrouvés un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, c'est un peu comme les téléphones portables avec les oreillettes qui font que maintenant, les délirants qui parlent à des voix, on les repère plus dans la rue, puisque tout le monde a l'air d'être... Il y a énormément de gens qui ressemblent à des délirants hallucinés qui parlent à quelqu'un. Donc je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui avaient peut-être des angoisses de mort, pas tout à fait encore réglé, j'expliquerai peut-être un petit peu après de quoi il s'agit, mais qui se sont retrouvés donc au fond dans une histoire où tout le monde était confronté aux mêmes choses. Donc il y a une espèce de normalisation de certaines formes d'angoisse, de certaines craintes et de certains fonctionnements, y compris celui du repli sur soi et du repli social. Donc du coup, évidemment, il faudra sans doute distinguer ce qui a été au tout début, ou même certains enfants, ados, jeunes majeurs et adultes, qui étaient en difficulté par rapport à ça, se sont retrouvés plutôt positivement pendant le confinement. Mais ensuite, quand on va réouvrir, c'est là où va réapparaître leur décalage avec le reste de leur tranche d'âge ou de la population.
Donc, une certaine vigilance.
Ça sera à moyen terme. Oui, bien sûr.
Ça sera une vigilance à voir. On y reviendra. Il y avait une question, parce qu'en préparant cette émission, on a évidemment échangé. Il y avait un sujet, une question que je souhaitais vous poser. Vous parliez là de la mort. Il y a des mécanismes en jeu, notamment, je pense qu'on parlait des enfants. Ce confinement représente quelque chose de particulier dans un temps où c'est les enfants commencent à apprendre l'existence de la mort, qu'on n'est pas éternel, et que ce qu'on a vécu vient accélérer ou en tout cas révéler ça. Et voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Oui, alors, avoir conscience qu'on est mortel, c'est même dans la définition de l'homo sapiens, puisque sapiens, ça veut dire qui sait. Et qui sait quoi? C'est qu'il est mortel. C'est-à-dire que dans le fait, quand on date l'homo sapiens, c'est aussi en rapport avec le fait qu'il y a des traces archéologiques de la conscience de la mort. Donc des tombes, des sépultures ou des relations éventuellement religieuses ou à la question de la mort et alors l'au-delà ou aux morts en tout cas. Donc on voit bien que ça fait vraiment partie de notre espèce que d'en avoir conscience. Sur le plan du développement psychologique, psycho-affectif, c'est une question qui, en général, se joue entre 5 et 10 ans pour pouvoir, au fond, accepter que l'on est mortel et que les autres, les gens qu'on aime, à qui on est attaché, sont aussi mortels. S'il n'y a pas de facteur traumatique particulier, la mort de quelqu'un précoce, une famille qui est frappée par des deuils anormaux, beaucoup d'enfants ils découvrent la mort avec la mort d'un animal, d'un animal familier. Puisque heureusement l'espérance de vie a quand même beaucoup augmenté, la santé s'est améliorée et la mort prématurée est devenue un phénomène anormal, on peut dire en tout cas culturellement. Donc je pense qu'entre 5 et 10 ans, certains enfants un peu plus tôt, les enfants qui sont précoces intellectuellement, même sans parler de variants statistiques, les enfants stimulés ou les enfants intelligents ou les enfants plus précoces, c'est parfois justement un peu compliqué pour eux parce que ça commence un peu trop tôt, cette conscience logique de la mort. Parce que sinon, ça correspond aussi à l'acquisition de l'âge de raison et la capacité à raisonner. Et au fond, par exemple, de ne plus croire au Père Noël. Donc quand on ne croit plus au Père Noël, on ne peut plus croire non plus que l'immortalité va de soi. On a le droit d'y croire, on a le droit d'être dans une croyance métaphysique ou religieuse qui amènerait à penser à l'au-delà, mais on sait que c'est l'au-delà. On sait que ce n'est pas l'immortalité.
Ça peut générer des angoisses.
Alors ça génère chez tout le monde des angoisses. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de castration. Mmh. Et la castration, c'est celle de la toute-puissance de penser que nous sommes immortels ou que nous ne vieillirions pas. Puisqu'il y a à la fois le processus de l'âge et des vieux, ce qui fait qu'il y a des petits-enfants, par exemple, ils ne veulent pas embrasser les personnes âgées parce qu'ils ont peur que ce soit presque comme contagieux. Ça leur fait peur, les personnes âgées, parce qu'ils voient la vieillesse. Et ils ont peur. Alors, s'ils en ont peur, c'est qu'ils ont déjà un petit peu conscience que ça existe et qu'en même temps, ils n'en ont pas vraiment conscience au sens fort du terme conscience. Ils ont du mal à se le représenter. Alors, effectivement, le Covid, en amenant cette angoisse de mort internationale, pandémique, de toutes les classes d'âge, alors évidemment avec des personnes à risque particulièrement, mais on a vu beaucoup d'enfants qui avaient peur pour eux-mêmes, même si eux-mêmes, et ils sont peut-être contaminables et contaminants, mais en tout cas, il y en a très très peu qui risquent la mort et qui sont personnes à risque. Mais donc cette question-là a formalisé dans la société et globalement et de manière un peu omniprésente, y compris dans les médias, mais aussi à l'école, enfin partout, y compris avec des conséquences importantes comme le confinement, les masques, toutes ces choses-là, ça a mis en scène au fond quelque chose d'une angoisse que l'on doit tous résoudre, mais qui là s'est portée de manière particulièrement prégnante, particulièrement intense. C'est là où on revoit ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a ces enfants pour lesquels parents et enfants sont très mal positionnés pour pouvoir régler cette angoisse de mort, on pourrait dire, de la mort, mais c'est le concept de la mort. Et donc ceux-là, ben, évidemment, ils ont été percutés par cette représentation sociale. D'autres qui ont des capacités internes, quand je dis internes, c'est familial, mais c'est aussi dans leur construction à eux, de pouvoir faire face à ce qu'on appelle le deuil, puisque nous sommes une espèce qui est, vu qu'on a conscience de la mort et de l'existence des morts, même quand ils ne sont plus, on est une espèce qui est concernée par le deuil. Donc ça a renvoyé, au fond, beaucoup de familles à leur problématique de deuil suffisamment résolue ou pas suffisamment résolue, traumatique ou pas traumatique, élaborée ou pas, ou difficilement élaborable. Alors, à cet âge-là, donc 4-5 ans, jusqu'entre 5 et 10 ans, effectivement, c'est le début. Et c'est pour ça que là, on est vraiment au moment de la fin de la maternelle et de l'école primaire. Après, au collège, moi, j'appelle ça des préadolescents, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, ils sont plutôt concernés par la question de la puberté, mais ils sont, donc, de tout ce que ça remodèle comme relation dans ce qu'on appelle l'économie psychique, autrement dit... Quel compromis on trouve entre la recherche du plaisir et le principe de réalité que le tout plaisir n'est pas possible. Donc, ils sont plutôt concernés par ces questions-là, les préadolescents ou collégiens, mais évidemment, ils sont aussi concernés par cette question de la mort et de cette angoisse de castration qui est d'accepter d'être mortel. Après, les lycéens et les jeunes adultes, je pense qu'eux, ils sont concernés aussi d'une manière particulière parce que l'adolescence, du coup, ça serait l'étape entre la préadolescence, le collège, si on prend un repère social, et soit la vie active, soit les études, soit l'apprentissage. Et là, la question de l'adolescence, c'est comment se débrouiller seul, comment être adulte. Et être adulte, ça veut dire, d'une certaine manière, dire à ses parents, pas « je veux que vous mouriez », mais « vous pouvez mourir ». Si vous mourrez, je me débrouillerai seul, j'arriverai à me débrouiller. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus du tout besoin de vous, ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore des choses à partager ou à se transmettre, mais en tout cas, j'y arriverai. C'est d'ailleurs le grand dilemme des parents qui ont un enfant en situation de handicap suffisamment sévère pour qu'il ne soit pas possible d'imaginer que cet enfant, donc, y compris devenu adulte, puisse vivre par ses propres moyens et soit seul. C'est une des grandes inquiétudes de tous les parents et les proches, on va dire, des enfants, des adultes en situation de handicap sévère. Donc c'est bien cette étape-là, l'adolescence, c'est construire sa propre identité. Je ne dis pas que c'est que ça, hein, c'est un des aspects, hein, évidemment. Rien n'est jamais aussi simple qu'une cause d'effet ou une seule problématique, c'est toujours multifactoriel, plusieurs problématiques en même temps. Mais en tout cas, vis-à-vis de cette question de la mort et vis-à-vis de... Et d'ailleurs là, des aînés, puisque la question qui s'est beaucoup posée, ça a été les personnes à risque et l'âge. Donc je pense que pour ces adolescents, évidemment, l'apprentissage de vivre et de ne plus avoir besoin de ses parents, ça passe beaucoup par les relations sociales. Alors certaines relations sociales semblent bien avoir été conservées, c'est celle des amis proches. Famille proche peut-être, amis proches. Sauf que c'est un âge où on a besoin d'élargir, on a besoin d'aller en cours. On a besoin de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. On a besoin d'être confronté à l'altérité et d'apprécier le plaisir de l'altérité, le plaisir de rencontrer des choses qu'on ne connaissait pas avant. Alors c'est tout aussi vrai, je pense, à la fac qu'au lycée. Ou d'ailleurs dans l'exercice professionnel. Les gens qui sont en télétravail massif disent qu'au début, c'est marrant. Et puis, au bout d'un moment, il y a un manque. La machine à café finit par manquer. Donc... Ben, voilà, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ces différents âges et comment une même problématique va se jouer légèrement différemment quand même en fonction de chaque étape de la maturation psychique.
Et alors justement, ça me permet de glisser un peu vers un des points suivants qu'on doit aborder. Le temps passe très vite. Juste sur ce que vous venez de dire, les adolescents, les jeunes adultes, ils sont finalement dans une période avec un besoin d'aller vers l'autre, d'élargir son cercle social, en fait, si je peux le dire comme ça. Et c'est quand même, allez, je vais le dire comme ça, c'est très mis à mal aujourd'hui. Depuis un an, les différentes mesures, finalement, ça peut se tenir dans 6. C'est pas tellement ça, élargir son cercle social, tenir dans 6. Est-ce qu'il faut, je veux pas être alarmiste, j'allais utiliser le terme craindre. Non, est-ce qu'il faut envisager des conséquences de ça pour cette génération ? Si on peut considérer ça, ou bon, c'est quelque chose qui va se compenser tout seul. Je me questionne sur le moyen terme, en fait.
Ce se compenser tout seul, ça serait assez étonnant. Bon, je pense que, comme on l'a dit, il y en a qui vont paradoxalement bien se sortir de ça, y compris même s'ils ont été très bien pendant le confinement, ils s'en sortiront dans le déconfinement et dans le fait de reprendre une vie sociale et culturelle assez large. C'est social et culturel aussi, cette question. Oui. Le cinéma, le théâtre,
oui,
les salles de concert, les boîtes de nuit, les restos, c'est aussi culturel. Je pense que... Il y a fort à parier que quand même, il y a beaucoup de situations qui vont être un peu décompensées, même si ce n'est pas aussi grave que les tentatives de suicide dont je parlais tout à l'heure, ou les troubles anorexiques sévères qui ont pu décompenser là depuis quelques mois. Mais je pense que tous ceux qui auront été qui sont un peu vulnérables vis-à-vis des questions autour de la mort, du deuil, par exemple, mais aussi de cette socialisation, de la relation à l'autre, seront probablement impactés un peu plus. Alors, un peu plus que ça n'aurait été. Du coup, il va y avoir... La question, ça va être vraiment comment on va pouvoir répondre à ça.
En fait, la question suivante, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il faut mettre en face de ça?
Alors, il y a bien sûr des soins pour ceux qui vont mal, ou voire même pour ceux qui vont pas si mal que ça, qui sont quand même pas dans des troubles pathologiques sévères ou chroniques, mais qui, en tout cas, auront été suffisamment en difficulté. Ils auront sans doute, effectivement, besoin d'aide psychologique. Ce qui, d'ailleurs, pourraient, à moyen ou à long terme, en faire des adultes beaucoup plus solides, puisque leurs points de vulnérabilité auront pu être pris en compte et résolus ou maturés plus tôt. Sinon, il y a des gens, c'est à l'âge adulte qui décompensent ces questions-là, voire au moment où ils prennent leur retraite. Donc, si on arrive à prendre en compte, à les aider, les soigner, je pense qu'on peut avoir des gens qui auront même vécu des phénomènes de maturation accélérée. Un peu comme les gens qui vivent des deuils précoces, et des enfants qui vivent des deuils précoces. S'ils arrivent à s'en sortir, si on les aide, s'ils sont au fond dans une certaine richesse éducative, affective, sociale, culturelle, finalement ça donne des gens qui ont à la fois une blessure, mais qui sont assez costauds par rapport aux problématiques de deuil, et qui donc ont aussi une maturité plus importante et plus rapide que d'autres. Avec, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas survaloriser cette hypermaturité qui peut être dangereuse et faire que quelqu'un passe à côté de son enfance ou de son adolescence ou de sa jeunesse. Mais quand même, ça donne une certaine... C'est un peu ce que disait Nietzsche, tout ce qui ne tue pas renforce. Oui. Donc là, on peut dire qu'il y a cette dimension-là qui va jouer sur cette génération, à condition quand même que, et ce n'est pas uniquement les soignants, bien qu'il va y avoir besoin de ça, et on est plutôt carencé en soins psy en France, il y a des tas d'études qui le montrent. À La Réunion, il y a une compensation qui est en train de se faire avec le projet territorial de santé mentale, mais fort à parier que la dimension psychothérapeutique sera pas, va être compliquée à mettre en place. C'est là-dessus qu'il va falloir réfléchir. D'ailleurs, le gouvernement avait mis en place des consultations pour les jeunes, avec encore une difficulté à comprendre ce qui allait se passer, parce que si consultation payait la moitié, au moins que la moitié, qu'une consultation en libéral classique, ça va être compliqué à organiser pour toute une population, puisque là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont en avoir besoin. Alors, certains n'auront peut-être besoin que de quelques consultations, mais il y en a quand même un certain nombre qui auraient besoin de soins plus soutenus, et sur du temps, ça prend du temps. Mais il n'y a pas que les soignants, il n'y a pas que les psys qui auront un rôle à jouer. Je pense que l'éducation nationale, dans la manière de compenser les carences de socialisation, les carences culturelles qui auront existé, les carences aussi dans les délais d'apprentissage, puisqu'il y a des choses qui n'auront pas été apprises. Il serait quand même très grave que les adolescents qui ont passé le bac ou le brevet ces années-là soient considérés comme des sous-diplômes. Ce qui est déjà un peu en train de se passer, ils ont déjà un peu des complexes, certainement en ayant l'air de dire, de toute façon le bac on va nous le donner, avec à la fois s'en rassurer, et en même temps il y a une espèce de crainte sur la valeur qu'on va leur accorder après. Donc je pense que culturellement aussi et socialement, il va y avoir vraiment besoin de penser la question de la sortie comme, c'est pas une, au moment où ça va sortir, tout le monde va faire la fête. Très probablement. Tout le monde va se retrouver. Il va y avoir, j'imagine et j'espère, une vie culturelle intense, un peu comme ça s'est passé. Alors, il y a des gens qui ont décrit ça, un peu comme ça s'est passé dans les années folles après la Première Guerre mondiale, où s'il y a eu une explosion comme ça, sociale, culturelle, une fringale de vivre à 100%. C'est plutôt la gueule de bois qu'il va falloir faire attention. Je pense que c'est dans le deuxième temps, donc à moyen terme, que... Après cette euphorie et cette sortie, Il y a ceux qui n'arriveront pas à sortir parce qu'ils auront été renforcés. C'est peut-être là où on les verra. Parce que pour l'instant, ils se sentent un peu rassurés dans le confinement. Mmh. Et puis, il y a ceux qui auront été un peu comme la dépression, puis l'euphorie. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est à ça qu'il va falloir faire attention. C'est que l'euphorie de la sortie, qui est très probable, je l'espère, et on peut l'imaginer, va se suivre d'une espèce de... Un peu comme les drogues d'ailleurs, un peu comme, je sais pas moi, la cocaïne par exemple, ou les amphétamines, où il y a un effet de speed et un effet euphorisant majeur, mmh. Ouais, qui avec beaucoup de plaisir, mais où il y a une descente qui peut être longue et basse. C'est ce qu'on décrit avec les drogues psychostimulantes, c'est-à-dire un effet speed, un effet de plaisir et de jouissance, et puis ensuite un effet d'épuisement, de fatigue, qui amène d'ailleurs à vouloir reprendre le produit pour remonter, et c'est le c'est dangereux par rapport à ça. Alors sur le plan de ce que l'on va vivre socialement et culturellement, il est probable qu'il y aura quelque chose comme ça, c'est-à-dire après l'euphorie, il risque d'y avoir une phase un peu dépressive sans qu'on comprenne trop pourquoi, parce qu'on sera peut-être à distance de tout ça, et donc il y aura un espèce de vide, parce que quand on est confronté à l'angoisse, y compris à l'angoisse de mort, à des phénomènes complexes et lourds, etc., on se bat quand même. Alors il y a ceux qui ont du mal à se battre, mais on se bat. Et puis après, on sort de là, on est euphorique, on dépense toute son énergie, mais après le combat, il manque. Oui. Parce que le combat n'est plus là. Et donc, probablement qu'il va falloir réfléchir collectivement, de manière complexe, en prenant en compte l'ensemble des axes de compréhension de l'être humain, ouais, la dimension physique, bien sûr, mais aussi les dimensions psychiques, les dimensions sociales et culturelles. Et c'est vrai qu'à La Réunion, on aura certainement à profiter de notre richesse qui s'inscrit dans la multiculturalité. Parce que là, il va y avoir vraiment cette possibilité, cette tolérance majeure qu'il y a à La Réunion sur les questions culturelles, d'autant qu'il va quand même y avoir des morts, il va y avoir avec le Covid, il y a aussi tous ces effets collatéraux qui sont tous ces soins qui sont différés. Oui. Puisqu'il n'y a plus de possibilités suffisantes pour soigner tout le monde comme on devrait le faire. Donc il va y avoir aussi des reliquats à digérer, à élaborer dans un deuxième temps.
Moi, ce que j'entends finalement de tout ça, c'est que là, on a un enjeu du moyen terme, c'est d'être prêt à accompagner ceux qui en auront besoin. Et finalement, sous des besoins qui sont quand même relativement variés, à des intensités ou en tout cas des...
Voilà. Tout à fait.
On arrive sur la fin de l'émission. On ne pourrait pas finir cette émission quand même en évoquant, pour les personnes qui nous regardent, si, et on est toujours, et c'est un des enjeux de la chaîne de Santé Live, de ces émissions Les Causeries, c'est toujours d'avoir une approche de prévention. Si on doit passer un message, par exemple, par rapport aux problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui, s'il y a des signaux d'alerte auxquels on doit être sensible, et finalement, comment réagir à ces signaux d'alerte? Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte sur lesquels on devrait être vigilant concernant nos jeunes, nos petits, nos ados, nos jeunes adultes?
Oui, alors je pense que c'est les signes habituels, en fait. Les signes les plus basiques, parce que soit c'est exprimé. Quelqu'un, un enfant ou un ado dit « je me sens vraiment pas bien, j'ai l'impression de déprimer, je suis triste », etc. Bon, c'est assez facile à comprendre qu'il va pas bien. C'est plutôt donc les signes physiques, en général. L'insomnie, les troubles du sommeil, la difficulté à sortir, les symptômes d'évitement. Les troubles des conduites alimentaires, par exemple, une des choses qui est apparue, c'est que comme les jeunes étaient confinés, il n'y avait plus cette espèce de pression, mais aussi de protection familiale, qui était de voir leur état physique dans lequel ils étaient. Donc l'amaigrissement, par exemple. Tous ces petits signes, au fond, je crois que les signes physiques en psy sont souvent les plus... C'est à la fois, ça n'explique rien de ce qui se passe, mais ce sont les signes périphériques les plus visibles et en même temps discrets. Les troubles du sommeil. Alors, on peut toujours masquer une difficulté à s'endormir en regardant des séries jusqu'à 4 heures du matin ou en jouant sur Play, pendant des heures. Mais d'une certaine manière, c'est sans doute à ces choses-là auxquelles il faut être vigilant. C'est aussi des peurs, c'est aussi des préoccupations particulières, notamment sur le poids ou sur ce qu'on mange. C'est au fond des petits signes comme ça, mais très physiques. Sommeil, alimentation... Fatigue ou pas fatigue. Un des bons signes évocateurs de dépression, mais pas forcément au sens maladie, mais aussi au sens de deuil complexe, douloureux, ou de de phénomènes dépressifs à un moment donné, qui ne relèvent pas forcément d'ailleurs d'un traitement médicamenteux, ça pourrait l'être, mais pas forcément, c'est vraiment cette espèce d'épuisement. C'est des jeunes qui disent qu'ils se réveillent, ils ont pourtant dormi,
et
parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent plus sortir, etc. Ils ont dormi, je ne sais pas combien d'heures, ils se réveillent, ils sont fatigués. Et alors un des signes de ça, d'ailleurs, c'est aussi que la fatigue se lève un peu avec dans les heures qui suivent dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a un réveil, on a dormi, mais on est quand même très fatigué. Et puis on a envie de rien, il faut se forcer, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Et puis c'est au bout d'un moment dans la journée, un peu comme si on se dérouillait. Alors ça, c'est des petits signes, mais qui permettent de poser des questions finalement et d'essayer de se parler. Parce que, bien sûr, pour un certain nombre des soins et des consultations psy seront nécessaires, seraient utiles. Et il faut, je pense, vraiment réfléchir collectivement à comment on peut favoriser cette dimension psychothérapeutique. Mais ça ne suffira pas, et puis ça ne pourra pas régler tout, et puis tout le monde ne sera pas dans cette capacité à faire la demande. Et donc je pense que la vraie question qui va être, c'est de parler ensemble, de ne pas être seul. Finalement, ces questions de deuil et ces questions autour de la mort, c'est essentiellement de ne pas rester seul. Ce qui est très compliqué, puisque justement, quand tout le monde est concerné par une même souffrance ou une même angoisse, c'est là où ça devient difficile d'en parler collectivement. Et pourtant, c'est peut-être un des moyens de prévention. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de la prévention déjà pour la suite. Oui. Parce que le fait d'en parler, ça autorise d'autres à en parler. Oui. Ça donne des arguments, des éléments de discussion. Je ne dis pas que j'ai raison sur tout. En tout cas, ça peut peut-être donner des éléments pour que les gens en discutent. Et surtout, il ne faut pas rester seul. Et trouver le moyen, alors, y compris sans forcément être relou, comme ils disent, sur le fait de « alors tu déprimes
oui, ».
Mais pas rester seul, c'est aussi avoir des activités culturelles, c'est reprendre des cours. Avoir une vie sociale et culturelle. Ça va être un petit peu tout ça. Et puis dans les familles ou dans les couples ou dans les relations entre amis, c'est vraiment s'autoriser à parler. Et dans ce truc qui est compliqué, c'est que quand on est soi-même en risque d'être triste ou d'être angoissé, la grande tendance, quand quelqu'un nous dit qu'il ne va pas bien, c'est de lui dire « si, si, tout va bien ». Mais si, regarde, tu vas bien, regarde, t'es bien, t'as de l'argent, t'as un travail, machin, je sais pas, t'as des bonnes notes, machin, ça. Alors qu'au fond, c'est les gens qui vont mal, ils ont besoin d'entendre qu'ils ont le droit d'aller mal, et que les autres aussi, d'ailleurs, ils peuvent aller mal de temps en temps, peut-être pas au moment où ils leur en parlent. Mais c'est vrai que c'est compliqué de parler ensemble de ces trucs-là, parce que c'est un peu contagieux, entre guillemets, les affects dépressifs ou anxiogènes, ou anxieux, et donc ça peut être compliqué. Mais je pense que ça va être l'effort. Pardon, qu'il va falloir... Il y a un plexi.
Oui, il y a le plexi.
C'est un effort qu'il va falloir faire les uns les autres. C'est-à-dire se dire, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Il va falloir se parler beaucoup et être en interaction, en relation.
D'accord.
C'est ce que je pourrais dire, moi, en tout cas, de ma place à moi.
Mais c'est quelque part déjà ça. Donc, les signaux physiques qui perdurent, effectivement, ça n'arrive qu'une fois... Faut pas s'alarmer tout de suite, mais des signaux physiques tels qu'ils ont été évoqués là qui perdurent, et puis en parler. Alors en parler déjà avec les personnes concernées, les amis, l'entourage, et puis le médecin et le professionnel si l'inquiétude monte. Je pense que
c'est partager l'expérience de la dimension dépressive qu'on n'a pas tous vécu, mais pour la plupart. Pareil pour la dimension de l'angoisse ou de la difficulté à accepter qu'on est mortel. Je pense que ce sont ces où on a du mal à imaginer que on va être adulte un jour et qu'on n'aura plus besoin de ses parents, qu'on devra se débrouiller seul. On n'est jamais en fait complètement seul. Mais c'est autour de ces questions-là qu'il va falloir pouvoir se parler.
Merci beaucoup, docteur Samin. On a largement consommé notre temps d'émission, mais c'est la preuve que c'est un sujet qui est important. Évidemment, on ne pouvait pas être totalement exhaustif sur 30 minutes. En tout cas, on a pu échanger aujourd'hui sur ce sujet. Probablement que ça va nous ouvrir à d'autres thématiques autour de l'enfance et des problématiques qu'on a évoquées là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Pour ma part, je vous retrouve le 18 ou 19 mai, 15h, on parlera IST, on parlera infection sexuellement transmissible. On aura certainement du lien avec le Covid aussi parce qu'il se passe des choses. J'espère que vous avez pu apprécier cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes vacances à tous les enfants qui sont en vacances aujourd'hui. N'oubliez pas, faites des choses, parlez-en. Mais bien sûr, protégez-vous, portez votre masque, soyons solidaires et faisons ce qu'il y a à faire. Merci beaucoup et au revoir.